Et tout d'abord, bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Elisabeth Collet et Vincent Godard à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Sauver le climat, oui, dernière séance de bachotage de cette semaine avant le grand oral de Copenhague que l'on a rebaptisé pour l'occasion Openhague, qui signifie port de l'espoir. Et on l'espère, qu'on va nous le démontrer, qu'il y aura des objectifs chiffrés à l'appui, que nous sommes capables de nous comporter en espèces adultes et responsables. Et oui, on peut le faire. On l'avait déjà fait à Montréal en 1987 pour protéger la couche d'ozone, et là, ça s'était pas mal passé. Bon, pourtant, Copenhague, faut le dire, on va pas raser gratis, c'est pas gagné du tout pour les 15 000 représentants de l'espèce humaine réunis au bord de la mer Baltique qui vont plancher sur l'énoncé suivant. Accrochez-vous. Comment limiter la casse climatique tout en préservant le confort douillet des pays du Nord et sans remettre en question le développement des pays du Sud ? Alors, c'est pas vraiment un programme électoral, on est bien d'accord. Pour répondre à la question, on s'entraîne depuis des mois dans les 192 pays qui participent à cette équipe du monde du sauvetage du climat. Alors, on a potassé le sujet à fond, on connaît les gaz à effet de serre par leur pinon, CO2, CH4, N2O, CF6, etc. On parle couramment en ppm, c'est-à-dire en parties par million. On sait tout des températures, précipitations au niveau des océans, des glaciers qui ressemblent maintenant de vulgaires esquimaux, à la débâcle des banquises, à la décalcification des coraux, à la viande qui bouffe la moitié des surfaces cultivées du monde, au soja, huile de palme et autres armes de déforestation massive. Sans oublier, tenez, l'oie cendrée et la cigogne blanche, oui, parce que si on en croit les observateurs de la Ligue pour la protection des oiseaux, eh ben, ils font grève d'immigration. Ils sont bien, il fait chaud, il fait bon, ils ne bougent plus. Rien à voir avec le loup dont on va parler dans quelques instants. Bref, je Rio, tu Kyoto, nous Copenhagon, et ça chauffe. Alors au menu des deux semaines de négociations marathon, changement climatique à toutes les sauces, matin, midi et soir, avec d'un côté de la balance sécheresse, tempête, inondation, réfugiés et points de PIB perdus, et puis de l'autre, quota d'émissions de CO2 et les aides aux pays en développement. Au risque de se réveiller un beau milieu de la nuit, vous savez, avec une espèce de poussée de fièvre climato-sceptique qui, rappelons-le, présente grosso modo les mêmes symptômes que la maladie d'Alzheimer, à savoir perte de mémoire sélective et prédisposition à chercher des poux dans les courriels des chercheurs. Sauf que scepticisme ou pas, eh bien voyez-vous, on ne négocie pas exactement avec le climat. Tous les indicateurs affirment que trop c'est trop et que si nous voulons rester aux 2 degrés d'augmentation de la température moyenne, bah, il faut cesser, on le sait, au plus vite de nous empiffrer d'énergie pas chère mais riche en carbone. Ça ne signifie absolument pas, évidemment, le retour à la bougie, grand classique que l'on nous oppose, puisque l'on veut fort bien, on peut très bien, par exemple, isoler mieux et chauffer beaucoup moins. Ou alors renoncer à des petites choses, comme le circuit de Formule 1 de Flins, dans les Yvelines. Le projet vient d'être enterré, donc belle victoire du monde associatif, appuyée, faut le dire, par Chantal Jouanneau et Borloo. Et si peut-être une des solutions pour sauver le climat, c'était de transformer les projets d'autoroute en jardin potager, hein ? Alors aujourd'hui, émission tout à fait naturelle qui va nous emmener dans le grand nord, qui va nous emmener en Sibérie, mais aussi en France, avec ce point commun qui est ce mammifère qui s'appelle le loup. Vous l'avez compris, il a un seul défaut, il mange très peu de salade, très peu de carambar, très peu de yaourt, donc il est assez carnivore, donc on ne l'aime pas trop, surtout quand on est éleveur, ça peut se comprendre tout à fait. Tenez, on va partir avec lui dans le grand nord grâce à Nicolas Vanier.
C'est des loups, Sergueï. Des loups.
J'aurais tant voulu changer les choses.
Changer la nature ? Tu voudrais quoi ? Que les loups mangent plus de rennes ? Alors on n'aura plus à les tuer, c'est ça ? Dans quel monde tu vis ?
Même après ce qu'ils ont fait, je pourrais pas les détester.
Parce que tu crois que les tiens détestent les loups ? Non, Sergueï. Pas plus qu'un loup déteste ses proies. Chacun lutte pour sa survie, c'est un tout, et tu dois l'accepter. On est des éleveurs de rennes.
Et Lou sort cette semaine, mercredi, film grand public, vraiment pour la famille. On va dire que c'est un merveilleux conte de Noël. Bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Alors Nicolas, aventurier, cinéaste et auteur. Et puis cette fréquentation des loups depuis, je ne vais pas dire depuis l'âge de 16 ans, mais ça a été votre premier rêve quand vous êtes parti avec un ticket de la Gare du Nord pour aller cette fois-ci dans le grand Nord. Et vous avez surtout constaté à travers ce film la relation ambiguë qu'a ce peuple Even. Donc des événements avec les loups, racontez-nous.
Oui, ben moi j'ai rencontré ce petit peuple incroyable qui vit à l'écart du temps, à l'écart de l'évolution du monde, dans ces très lointaines et féeriques montagnes verdoyantes, lorsque j'ai traversé pendant 2 ans toute la Sibérie, avec différents moyens de déplacement naturel. J'ai commencé à cheval, ensuite en traîneau à chien, etc. Puis en traversant ces montagnes à dos de poney, je suis tombé un jour sur un petit camp de nomades, tels que ceux que l'on voit dans le film. Et je devais repartir le lendemain matin, j'y suis resté 6 mois. 6 mois durant lesquels j'étais initié à cette vie incroyable auprès de la Grande Harde et donc auprès des loups, bien évidemment, parce que ce territoire, les Évennes, ces nomades éleveurs de rennes, le partagent avec les loups. Et le début de cette histoire, qui est née dans mon esprit, qui est ensuite devenue un roman et aujourd'hui un film, elle est née de cette constatation que j'ai fait en quelque sorte sur place, qui était que, par exemple, Nicolas, qui fut l'un de mes grands amis, le chef de ce petit clan qui m'avait accueilli,
c'était un peu votre Dirzouz. Là, hein, cet homme.
Oui, oui, oui. Il détestait, il le haïssait jusqu'au plus profond de son cœur et de son corps, cet animal hein, qui s'attaquait en quelque sorte à sa chair, à son sang, que sont les rennes, hein, un petit peu à l'image d'une mère qui défendrait ses enfants. Puis ce même Nicolas, le soir même, sous la tente, il était capable de me raconter des histoires qui trahissaient son émotion, son admiration, sa fascination finalement pour cet animal qu'ils connaissent mieux que quiconque, dont ils savent mieux que quiconque l'intelligence qu'il est capable de faire preuve, la tendresse aussi qu'il est capable de faire preuve dans leur rapport frère, sœur, mâle, femelle. Et c'est de cette espèce de contradiction, si je puis dire, qu'est né le début de cette histoire et donc de ce film.
Et c'est donc toute l'histoire, comment à la fois protéger les rennes de la tribu et en même temps aussi respecter ces loups. Et on voit bien que ces hommes-là sont quand même tiraillés par cela, donc ils y arrivent, on va dire, à la fin. Donc, on va y revenir. Farid Benhamou nous rejoindra dans quelques instants parce que cet homme-là est à la fois géographe et puis s'intéresse depuis très longtemps à la relation entre les prédateurs donc, et les hommes. Ours, lynx, loup, une protection contre nature. C'est ce qu'il nous dira. Et je vous propose de débuter en musique tout de suite. Et donc, les loups, au cours de cette émission, vous l'avez compris, jusqu'à 15h.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. J'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle.
La vie sera belle. Le Louvre, ça n'est pas la cathédrale Notre-Dame, ça n'est pas la Joconde si nous étions des Italiens, mais, ouais. Mais peut-être un jour on verra des loups sur des billets de banque,
ouais.
Un peu comme on voit des kiwis sur les billets de banque néo-zélandais, et ça serait certainement la preuve que cette nature est intégrée comme une vraie fierté pour les Français. En tout cas, moi, je le ressens personnellement et j'aimerais le faire partager.
Voilà, réflexion tout à fait intéressante de Pierre Comonville, qui est directeur adjoint au Parc national du Mercantour, donc, où ce loup a trouvé le gîte et le couvert et est donc revenu par ses propres moyens, tout seul comme un grand, depuis les Abruzzes en novembre 1992. Il faut dire qu'on a eu quand même une belle coupure en France parce qu'en 1937, on avait donc tué le dernier loup dans le Limousin. Et puis après, donc, retour en 1992. Donc, on imagine bien qu'il y a aussi là un aspect culturel qui a été assez fort. Nicolas Vanier, donc avec Lou, lui, nous emmène plutôt dans la Sibérie arctique. Tout à l'heure, on parlait de réchauffement climatique, et puis on va en parler encore, à mon avis, pendant une bonne centaine d'années. Vous avez vu ce phénomène, vous, important quand même, des arbres ivres. Et dites-nous ce que vous voyez, l'évolution à laquelle vous la voyez, cette évolution pardon, du réchauffement.
Ce qui se passe, effectivement, moi j'ai commencé à voyager dans le Grand Nord et l'Arctique il y a 30 ans. J'ai rien vu pendant 20 ans. Et depuis, je dirais, 8 ou 9 ans, c'est assez exponentiel. Alors, quelques exemples concrets, mais je pourrais en donner beaucoup. Effectivement, ce qui m'a marqué, c'est ces forêts ivres que vous évoquez, que j'ai dû éviter lorsque j'ai traversé toute la Sibérie en traîneau à chien. Qu'est-ce que c'est ? Comme le nom l'indique, ce sont des forêts où tous les arbres tombent. Ça ressemble à une sorte de grand Mikado géant, vous savez, ce jeu. Et cela est dû au fait que le permafrost, dans certaines zones, est en train de fondre. Le permafrost, c'est cette couche de sol gelé en permanence, qui est un véritable ciment naturel, en quelque sorte, sur lequel tout repose dans le Grand Nord. Et il est devant la hausse spectaculaire des températures, qui est l'ordre de 3, 4 degrés dans certains endroits, ce qui est absolument énorme. Eh bien, il est en train de fondre, même parfois totalement. Et donc, tout ce qui se trouve dessus, alors c'est parfois des villages. J'ai fait comme ça des photos d'un village inuit où toutes les maisons se sont enfoncées, sont tombées les unes sur les autres. Et d'ailleurs, ces Inuits sont devenus des réfugiés environnementaux. Leurs rangs se grossissent malheureusement d'année en année. Et il y a ces forêts. Alors, il y a bien d'autres exemples, malheureusement, que je pourrais citer, qui nous emmènerait jusqu'à très tard ce soir si j'évoquais tout ce que j'ai pu voir dans le Grand Nord. Ce qui m'inquiète est cette raison pour laquelle aujourd'hui, tout ce que je fais s'accompagne effectivement d'une démarche qui vise à sensibiliser les gens sur cet aspect très concret des choses.
Nicolas Vanier, pendant des années, vous avez traversé des territoires du loup. Évidemment que c'est un animal qui est territorial, c'est-à-dire que vous passiez vous d'une meute à l'autre. On reviendra sur le cas de la France avec à peu près 180 loups. Quel est le rapport avec l'homme ? Dites-le-nous tout de suite, parce que le petit chaperon rouge a fait des dégâts monstrueux quand même dans l'esprit des gens. Mais est-ce que le loup et l'homme, comment ça cohabite ? Le loup a peur de l'homme ? Comment ça se passe ?
Non, moi, j'ai vu beaucoup de loups. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est un animal vraiment impressionnant. C'est quelque chose que l'on a pu mesurer, même sur le tournage du film pendant un an, l'ensemble de l'équipe technique, les comédiens. C'est un animal impressionnant. À cela, il faut opposer le fait que le loup n'attaque jamais un homme. Il n'a jamais attaqué un homme. Moi-même, j'ai été suivi, par exemple, en Sibérie, par une meute de 6 loups faméliques, complètement affamés, qui n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était de trouver un petit morceau de viande pour survivre. Pas une fois, ils ont montré un semblant de commencement d'agressivité, même la nuit où ils s'approchaient du campement. C'est des animaux qui respectent l'homme. Alors, pourquoi ? Ça, je pense qu'on en débattra encore aussi longtemps que des hommes et des loups vivront sur cette planète. Mais c'est un fait avéré, constaté. Les seuls cas que l'on connaît, notamment en France, on s'est rendu compte que c'était des loups qui avaient contracté la rage. Cette fameuse époque où on raconte des tas d'histoires qui sont réelles. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le Grand Nord canadien ou en Sibérie, on n'a jamais eu l'exemple d'un loup ayant attaqué un homme. Donc voilà la réalité, c'est cela.
Et on dit qu'en Europe, à la période donc, des grandes pestes, en fait, les loups se sont habitués aussi au goût de l'homme parce qu'ils mangeaient aussi les cadavres. Ils peuvent être aussi charognards.
Hein. Oui, ils peuvent être charognards, mais surtout, les études ont montré que tous les cas avérés d'attaque sur des hommes vivants ce sont des animaux qui avaient contracté la rage.
Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour dans ce parc national du Mercantour, hein, donc où le loup est revenu avec ses petites papates tout seul, depuis donc l'Italie. Et on va rencontrer Gérard Milichère, qui est donc garde de ce parc national. Et nous sommes, on ne va pas vous dire exactement où, on n'est pas très loin de la vallée où fut tourné Belle et Sébastien. Oui, une autre époque, c'était tourné par là-bas. Donc, on va dire qu'on est dans la haute vallée de Latinée. Et puis, on n'en saura pas plus. Ce n'est pas la peine de les déranger. Cela dit, ne vous inquiétez pas, parce que s'ils vous voient, eux, ils savent que vous êtes là. Et vous, vous ne le savez même pas. Je pense, Gérard Milichère, que le loup doit faire moins de bruit que nous si par hasard il emprunte ce sentier, mais c'est pas sûr, hein. C'est peut-être qu'il a ses pistes à lui.
Oui, il a ses pistes à lui, ça c'est sûr, mais il a aussi des habitudes sur des sentiers humains, ou des pistes, voire des routes, donc il va pas se gêner quand il veut aller d'un endroit à un autre, il va choisir comme nous le plus facile. S'il y a une piste, une route, un sentier, il va prendre ça. Ceci dit, il peut aussi aller dans des endroits très, très éloignés de tout ça, en zone complètement sauvage, sans aucun sentier marqué, quoi, ouais, bien sûr.
Il a un parapluie ou bien il va faire comme nous, se mettre à l'abri parce que... Alors là, on ne va pas dire très précisément où nous sommes, mais en revanche, vous nous avez emmené à un endroit où il y a effectivement des crottes de loup. Moi, j'en avais jamais vu. Alors là, voilà, on a ça, j'ai presque sous le nez. Vous, voilà. Ça vous sert d'indice. Donc vous êtes un peu un Sherlock Holmes de...
Voilà, on est un peu des chercheurs d'indices, effectivement. Eh oui. Donc on travaille de façon indirecte sur la présence de cet animal, puisque l'observation directe est rarissime. Donc on récolte des indices qui peuvent être effectivement des crottes de loup. Oui. Donc c'est très intéressant parce que d'une part, ça nous indique la présence du loup sur ce territoire-là, ça nous donne une indication sur ses déplacements. Et surtout, on prélève cette crotte à deux fins. D'une part, il y a une analyse qui est faite pour le régime alimentaire, à partir des poils qui sont à l'intérieur et qui vont des poils ingérés de la victime. Donc ça va nous donner l'espèce en question. Et ensuite, la deuxième analyse, c'est une analyse génétique.
D'accord.
Qui va nous permettre d'une part de confirmer qu'il s'agit bien de l'espèce loup et ensuite d'identifier individuellement l'animal qui a fait cette crotte.
Alors aujourd'hui, on va peut-être quand même rappeler deux, trois petites choses. C'est que le loup est un animal territorial. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors un territoire, c'est un secteur, une zone géographique qui, entre guillemets, lui appartient. C'est-à-dire qu'il il navigue à l'intérieur de ce périmètre. Donc pour une meute de loups, donc on rappelle que le loup est un animal social qui vit en famille, c'est-à-dire en meute, ce territoire est de l'ordre de 200 à 300 km² pour l'Europe, pour les loups qui nous intéressent ici.
Donc son intérêt, ce n'est pas d'être forcément trop nombreux sur ces 200-300 km².
Absolument, donc il y a une autorégulation naturelle qui se fait au sein de la famille, c'est-à-dire que la reproduction, déjà, elle est une seule fois par an.
Ouais.
C'est une seule femelle, donc la femelle alpha qui fait la portée. Et puis le nombre peut aller de 1 louveteau jusqu'à 6 à peu près au maximum. Après, il y a une mortalité importante pendant la première année. Donc tout ça fait que la population, avec les morts naturelles ou accidentelles qui peuvent arriver, la population reste à un niveau à peu près stable au sein du territoire. Mais il y a quand même évidemment des loups en surplus, on va dire, qui sont amenés à quitter la meute parce que la meute est trop nombreuse à un moment donné. Donc c'est eux qui vont être des pionniers, des colonisateurs, qui vont aller à la recherche d'un nouveau territoire pour installer une nouvelle meute avec un partenaire qu'ils vont trouver pendant leur déplacement.
Et ce sont vraiment des bêtes qui font des kilomètres, hein, ça trace.
Exactement, un loup c'est un marcheur infatigable. Ouais. On dit à juste raison que c'est un animal qui chasse avec ses pattes. C'est d'abord un coureur de fond, un animal qui se déplace sans aucun problème, par toutes les conditions, tous les reliefs, neige ou pas, il n'y a aucun problème. Donc il parcourt des kilomètres et des kilomètres toutes les nuits. Nous, on a constaté des visus par une présence à un endroit et une attaque qui a eu lieu 10 ou 20 km plus loin. Et c'était flagrant. C'était la même meute qui s'était déplacée dans la nuit, dans une neige poudreuse énorme. Et 10 km, ça leur a pas fait peur, quoi.
Merci à Gérard Milichère donc, de ce parc national du Mercantour. Vous avez pris un peu de pluie, hein, vous avez compris. On était sous un parapluie. Voilà, ce n'était pas votre transistor qui était déréglé. C'est parfaitement normal. Alors, vous les avez observés, vous, Nicolas Vanier, ces loups. Puis on les retrouve évidemment dans ce film loup. Ce n'est pas un documentaire, on est bien d'accord sur les loups. Mais ça quand même nous donne quelques indications. Ça peut s'apprivoiser, un loup d'ailleurs.
Non, mais c'est ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on constate lorsqu'on imprègne des loups, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on les, si on les habitue depuis le premier jour où ils ouvrent les yeux à la présence de l'homme, ils sont relativement sociables pendant les premiers mois, un petit peu l'image de chien, ils recherchent le contact de l'homme, ils apprécient volontiers le contact de l'homme, si tant est qu'ils le connaissent hein, tout de même. Hein. Ouais. Mais dès lors qu'ils deviennent adultes, c'est-à-dire à l'âge de 5, 6, 7 mois, bien on remarque, et c'est ce qu'on a vu sur le tournage, puisqu'on a cette petite meute de loups qui a grandi avec le film, on constate qu'ils commencent à prendre leur distance, qu'ils deviennent de plus en plus observateurs, qu'il faut absolument qu'ils comprennent et qu'ils identifient tout ce qui peut être nouveau dans leur environnement. Et il y a cette distance, en quelque sorte, ils redeviennent sauvages, ils redeviennent des loups. Et même s'ils acceptent la présence de l'homme, et c'était le cas sur le film, ils conservent toujours cette distance. Et donc, on ne peut pas dresser des loups, on ne peut pas les apprivoiser, on ne peut jamais, en tout cas, les contraindre à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. On ne peut pas, comme à des chiens, par exemple, dire « viens ici » ou « assieds-toi » ou « couche-toi ». Le loup n'obéit pas. Donc, c'est passionnant sur un tournage comme celui-ci parce qu'en quelque sorte, il faut obtenir naturellement des réactions, des comportements, des déplacements dont on a besoin. Et pour ça, on utilise beaucoup son imagination. On trouve des petits trucs, des stratagèmes. On se sert de son sens de la curiosité qui est absolument énorme. Pour par exemple placer à un endroit quelque chose qui va l'intriguer, donc il va s'approcher avec précaution si on imagine quelque chose qui le fait un tout petit peu peur, mais surtout pas trop parce que alors là on bloque le loup. Enfin, c'est passionnant quoi. Il y a des gens qui considèrent que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Moi j'ai considéré que c'était passionnant et c'était comme ça qu'il fallait prendre les choses, sinon on partait pas sur un film comme celui-là.
Quand on parle des meutes, les gens vous disent une meute, ah bah c'est pas, c'est 10, 15, 20 loups, 30 loups, pas du tout, ça va être de deux ou trois, c'est une meute.
Alors, ce qui se passe, c'est que la meute, c'est grosso modo la famille, c'est-à-dire généralement. Alors là, je parle vraiment, moi, de ce que j'ai vu. Oui. Moi, ce que j'ai vu, c'est des meutes de 5 jusqu'à 12, 14 loups. J'ai vu une meute de 80 loups dans le Yukon.
Oui, c'est un troupeau
de
loups.
Et ça, c'est quelque chose de connu, reconnu par les scientifiques. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné, en plein hiver, au plus froid de l'hiver, généralement c'est après janvier, mois de janvier et février, plusieurs meutes de loups, jusqu'à 5, 6, 7 meutes de loups qui se mettent ensemble pour chasser sur des élans, notamment, qui leur posent un gros problème, voire sur les caribous. Et d'ailleurs, dans le Yukon, il faut en parler, il y a 2 ans de cela, les écologistes se sont mis d'accord avec l'ensemble de la communauté scientifique pour réguler le nombre de loups qui était en train d'occasionner des dégâts énormes. Justement, c'était cette fameuse meute de loups qui était chiffrée à entre 50 et 100 animaux qui était en train de réduire de façon alarmante une harde de caribous. Alors bien sûr que la nature se serait contentée de réajuster tout cela, mais ça aurait mis longtemps. Et donc, il y a eu un accord pour réguler le nombre de loups dans le Yukon parce que cette meute énorme de loups faisait des ravages considérables.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir en France et d'aller dans le Larzac. On n'a pas forcément de loups dans le Larzac, mais on a un homme qui connaît quand même bien l'affaire, qui s'appelle José Bové, qui est député européen, qui est ancien éleveur, qui revient évidemment tout à fait fréquemment. Et lors d'un reportage, j'ai posé la question sur le loup, où a priori il n'y a pas encore de loup dans le coin.
Ici, non, le loup n'est pas venu. Il n'a pas pris la bifurcation à Montpellier pour remonter sur le
Il n'a pas la bonne carte, je crois. Enfin.
Il n'avait pas la bonne carte. Donc, effectivement, les loups, mais beaucoup d'espèces sauvages suivent les autoroutes maintenant.
Oui.
Il y a 10 ans, 15 ans, il y a un loup qui est passé par ici. Mais on ne sait pas d'où il sortait. Et donc, c'était plutôt accidentel. Moi, ça me pose un vrai problème.
Je m'en doute. Oui.
En tant qu'éleveur de brebis. Alors, parce que contrairement, et ça, c'est quelque chose d'important de pouvoir le dire, c'est que quand on est éleveur de brebis, on n'a pas une addition de brebis en tant qu'individu. Les brebis, c'est un troupeau. C'est-à-dire que c'est une personne, le troupeau. Mmh. Et c'est vrai qu'une agression sur le troupeau...
Ça va amputer une main, on va dire.
Le troupeau est un être vivant en soi. D'ailleurs, un qui l'avait très bien écrit, c'était Jean Giono, qui avait écrit Le Grand Troupeau, qui avait fait le parallèle entre le troupeau et la grande boucherie de Verdun pendant la guerre de 14. Il a écrit ce livre absolument extraordinaire. Et c'est vrai que pour un éleveur de brebis, cette forme d'agression, c'est considéré comme un... effectivement, c'est un vrai stress, quoi. Hein. Mm-hmm. Quand il y a eu ce loup il y a une dizaine d'années, les gens étaient quand même mal à l'aise. Ils ne savaient pas comment réagir. C'était difficile. Alors, moi, je peux entendre le message... de l'environnement, de la biodiversité. C'est quelque chose que je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on est dans une confrontation, quoi. C'est-à-dire que si on veut maintenir des paysans nombreux, y compris dans les zones les plus difficiles de montagne, est-ce que la coexistence est possible ? C'est vrai que cette bataille face au loup, bon, nous ici, on n'est quand même pas très loin de tout ce lieu quand même un peu fantasmatique du Gévaudan. Donc voilà, donc cette confrontation de l'homme face à un univers hostile où il fallait se protéger, ça a toujours été ça, la bataille aussi de l'agriculture. Alors moi, ce que je crains, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se retrouve dans cette situation où on est à la fois des paysans qui sont sur la défensive parce que ils sont de moins en moins nombreux, et puis c'est vrai qu'ils sont attaqués de toutes parts au niveau de la politique agricole, etc., et c'est de plus en plus difficile de vivre, et des gens qui les stigmatisent parce que, dans leur défense, ils ont du mal à supporter ce discours sur la biodiversité qui vient, et c'est comme ça souvent que c'est vécu dans le milieu paysan, de personnes extérieures, en disant « c'est des écolos encore qui viennent nous faire chier avec ça ». Donc voilà, moi je crois qu'il n'y a pas une idée définitive là-dessus. Mais je crois qu'il faut vraiment être dans cette réflexion et de bien se dire que c'est la construction de l'agriculture dans les zones les plus difficiles, elle s'est faite souvent en confrontation avec la nature.
Alors, réaction, Nicolas Vanier.
Moi, surtout, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que, effectivement, le troupeau, c'est pas une addition d'animaux, c'est un être humain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai profondément ressenti avec ces nomades éleveurs de rennes qui avaient une harde de 2500 rennes. Donc, on pourrait se dire, si les loups en tuent deux ou trois, finalement, c'est pas bien grave. Mais non, c'est véritablement comme si les loups mangeaient un doigt de leurs enfants, quoi. C'est un être humain. Et c'est pour ça que ça m'interpellait beaucoup. Sinon, je suis assez d'accord avec la position de José Bové. Je pense qu'il faut essayer de trouver, et c'est pas facile, une sorte d'équilibre et pas être dans la caricature avec à une extrémité, c'est ce qu'on voit en France, c'est-à-dire
les gentils protecteurs
des écologistes citadins des villes qui, dans leur bureau, se disent c'est formidable qu'il y ait des loups, et puis de l'autre côté, des bergers ou des chasseurs, parce que c'est un concurrent terrible, qui disent il faut l'exterminer jusqu'au milieu. Et je pense que, jusqu'au dernier, je pense que si on n'arrive pas à trouver justement peut-être ce compromis, cet équilibre, on va retomber dans la situation qui était la nôtre en France, c'est-à-dire que ces bergers, ces chasseurs vont mettre de la strychnine dans des boulettes de viande, et puis on n'aura plus de loups. Donc c'est ça, je crois, aujourd'hui, le véritable défi. Si on veut avoir des loups, il faut prendre en compte la position de ces hommes, bergers, chasseurs et autres, qui subissent la pression tous les jours du loup.
Alors, un homme qui connaît bien ce sujet, c'est Farid Benamou. D'abord, on remercie France Bleu Orléans parce que vous êtes là-bas. Farid Benamou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie de l'environnement à l'Engref AgroParisTech. Et puis, vous avez sorti, de vous intéresser sur ces relations entre l'homme et les grands prédateurs depuis longtemps. Vous avez sorti récemment « Ours, lynx, loup, une protection contre nature », c'est aux éditions Milan. Alors, est-ce que le loup met en péril le pastoralisme aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il est révélateur d'une crise du pastoralisme ?
Mais j'opterais plutôt pour la deuxième proposition, c'est-à-dire que c'est un révélateur.
Allez, plus de son, plus d'image. Eh bien, c'est formidable. Vous nous entendez peut-être, mais là, on ne vous a plus. Eh bien, c'était...
Oui, là, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon, c'est reparti.
Donc, je disais, j'optais pour la deuxième proposition, c'est-à-dire un formidable révélateur des difficultés de l'élevage. Alors, José Bové l'a bien dit tout à l'heure, il parlait de difficultés de cette bataille contre le loup, mais il soulignait également qu'il y avait beaucoup d'autres difficultés. Et ce sont ces autres difficultés qui fragilisent bien souvent l'élevage, y compris dans les zones où il n'y a pas de loups.
Mmh. La cohabitation, donc, est-elle possible ? Ça fait partie aussi des idées reçues que vous avez mis en avant dans ce livre.
Alors, elle est possible, même si elle peut être difficile. Pour cela, bien sûr, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Bien sûr, il y a des mesures de protection qui facilite la cohabitation, c'est-à-dire des clôtures, surtout du gardiennage de la présence humaine, et éventuellement des chiens de protection. Vous savez, les grands chiens blancs, souvent de race patou. Et puis il y a aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que quand on n'a pas un état d'esprit pragmatique, quand on a un état d'esprit plutôt braqué, comme ça peut être le cas dans un milieu de l'élevage travaillé par des difficultés et travaillé par, je dirais, certains syndicalistes qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu, on va avoir une situation un peu rigide. Mais dès qu'on a des personnes, y compris qui peuvent être hostiles au loup, hein, c'est pas le problème, qui se disent « bon bah oui, mais maintenant comment on fait concrètement ?» Eh bien là, il y a des améliorations qui se produisent, et puis le loup peut être intégré dans un système où il n'était plus présent, hein, c'est vrai. Et dans ce cas-là, eh bien, les pertes liées au loup peuvent passer ensuite comme les autres pertes courantes qui peuvent exister, qui peuvent être les maladies, qui peuvent être les accidents, qui peuvent être d'autres difficultés.
Alors, on va voir qu'il y a encore du boulot parce que chez nous, pour beaucoup de personnes, ce loup, en tout cas dans le monde politique, est un délinquant, c'est un intrus, c'est un symbole de la sauvagerie. Donc c'est un problème politique. Et là, les sénateurs, c'est tout récent. Le Sénat a adopté mardi un amendement au projet de budget 2010 qui réduit de 500 000 euros les crédits destinés à la préservation des espèces de grands prédateurs pour répondre à l'attente des éleveurs. Nous devons donc cet amendement à Gérard Bailly, sénateur UMP du Jura. Et Chantal Jouanneau, donc secrétaire d'État à l'écologie, lui a répondu, écoutez, concernant les loups, ce n'est pas la suppression, par la suppression de crédits que vous parviendrez à résoudre ces difficultés. Quelle est votre réaction, Nicolas Vanier ?
Je suis tout à fait d'accord avec Chantal Jouanneau. Peut-être qu'il faudrait, au lieu de supprimer ces crédits, les réorienter effectivement autrement, de façon à ce que on puisse conserver en France cette chance exceptionnelle que l'on a d'avoir des loups. C'est-à-dire rendre possible la coexistence des loups avec des hommes qui subissent sa pression tous les jours. Et cela, ça passe par des moyens. Donc ça veut dire peut-être des moyens financiers qui doivent être mis pour protéger à la fois les bergers et protéger les loups.
Réaction, Farid Benhamou ?
Oui, exactement. L'action de ce sénateur tire véritablement une balle dans le pied des éleveurs parce que, en gros, le budget consacré aux prédateurs, c'est 6,3 millions d'euros. Lui, il vote un retrait de 500 000 euros en disant que c'est pour les éleveurs. Or, près de 80% de ce budget est consacré à l'aide aux éleveurs. C'est-à-dire que ce budget-là ne va pas sur des comptes en Suisse appartenant à des loups, oui, mais plutôt ce sont des aides, car on a besoin de réintroduire des humains pour faciliter la cohabitation. Ce sont bien sûr les indemnisations, ce sont bien sûr des équipements pastoraux. Donc tout cet argent ne bénéficie pas aux associations de protection de la nature, ne bénéficie pas aux loups directement, en partie, en toute petite partie, mais la grande majorité bénéficie aux éleveurs. Donc c'est pour cela qu'on espère que les députés, eux, ne voteront pas cet amendement.
Non, je secouais la tête parce que ça fait quelques années, et je recommence puisque l'occasion m'en est donnée, que je suis absolument persuadé qu'il faut créer en France un secrétariat d'État chargé de la gestion de la faune sauvage, de la chasse et de la pêche. On est aujourd'hui encadré au niveau ministériel sur ces questions-là d'une façon très désorganisée. Je suis vraiment, moi, je milite pour la création de ce secrétariat d'État.
Merci à vous deux. On vous retrouve dans quelques instants. Ce sera juste après Martin McFall.
Sergueï, pourquoi t'expliques pas toi à ton père ?
Arrête, Nastasia, tu le connais pas. L'hiver dernier, ils ont tué 17 loups, sans leur laisser une chance.
T'as même pas essayé de lui parler.
Mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Lui parler, c'est livrer nos loups, c'est ça que tu veux ?
Mais t'as pas le choix.
Tu veux qu'on les tue nous-mêmes ? C'est ça ? Vulka ! Vulka ! Viens, Vulka, viens. Viens, Vulka, viens. Viens. Voilà, oh oui.
CO2, mon amour, Denis Chess.
Hear the man down the corner shop. The little girl by the bus station. All the pigeons in the park. And Rita, she lives next door to me. Ooh, ooh, shala, la la, la la. Ooh, ooh, shala, la la, la la. Thank you.
Il faisait ouh, c'est normal, c'est normal. C'était la petite touche suédoise, donc de Martin McFall sur France Inter. Chalala, vous la connaissez presque par cœur maintenant, cette chanson. CO2, mon amour, en direct. Les loups sont dans votre transistor, c'est formidable. Oui, non, non, vous restez à distance. Vous restez à distance. Quelle distance à peu près, Nicolas Vanier, lorsque vous les avez croisés? 100 mètres, 150 mètres,
les distances de fuite? Les loups, c'est à peu près toujours au moins 200 mètres.
Oui, c'est déjà...
C'est-à-dire que ça correspond assez exactement d'ailleurs à la portée d'une carabine. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que des loups qui n'ont jamais vu d'hommes respectent toujours à peu près cette distance.
Ouais. Alors Farid Benhamou, donc avec nous depuis France Bleu Orléans, je le rappelle, hein, docteur en géographie, avec cet ouvrage « Ours, lynx, loup, une protection contre nature », dans la série un petit peu des idées reçues, ce n'est pas la protection des grands prédateurs qui garantit le maintien de la biodiversité en montagne. Réaction?
Alors, c'est vrai qu'on a vu se développer donc chez les opposants au loup le fait de dire que les loups, c'est un petit peu qu'une illusion et que la vraie protection de la biodiversité, c'est le pastoralisme. Le pastoralisme, l'élevage en montagne qui maintiendrait les paysages ouverts.
Ce qui n'est pas
faux. C'est en effet une idée reçue qui est souvent avancée parce que ça part du principe que systématiquement l'élevage en montagne, le pastoralisme va entretenir les milieux ouverts, ce qui n'est absolument plus le cas à l'heure actuelle. Tout simplement parce que avec la diminution du nombre d'éleveurs et surtout de bergers, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des troupeaux, eh bien, on a vu de plus en plus les troupeaux s'étaler d'eux-mêmes en montagne. Or, quand les brebis vont d'eux-mêmes en montagne, d'elles-mêmes en montagne, elles vont brouter certaines zones et surpâturer certains endroits et en sous-pâturer d'autres. Ce qui fait que eh bien, ça n'empêche pas du tout la fermeture du milieu, au contraire. Et donc, ce n'est pas en laissant des brebis toutes seules en montagne, comme c'est de plus en plus la tendance, qu'on va maintenir ces paysages ouverts. Alors, depuis quelques années, il y a des professionnels, notamment des espaces protégés, qui dialoguent, échangent avec certains éleveurs et bergers pour essayer d'améliorer cette pression du pastoralisme pour qu'effectivement ils maintiennent les milieux ouverts et une certaine biodiversité. Et donc dans ce cas-là, très ponctuellement, eh bien, c'est grâce au retour de bergers qui en plus s'occupent mieux des brebis que là, éventuellement, on peut avoir un maintien des milieux ouverts. Mais ça ne va pas de soi.
Je vous propose d'aller dans Haute-Maurienne, coin que connaît très bien Nicolas Vanier, parce que donc s'opère au mois de février
la Grande Odyssée, cette fabuleuse course de chiens de traîneau que je vous invite tous à découvrir et à suivre à partir du 10 janvier.
Et un homme que vous connaissez dans cette émission, c'est Yves Berneron, qui est naturaliste. Et c'est très intéressant parce qu'il va nous parler, donc, lui, du patou. Il observe bien les choses. Retour du loup en Maurienne, on se doute bien que ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde.
Ah, c'est pas bien vécu.
Quand on est berger, non ?
Par les bergers, entre autres. C'est vrai que les éleveurs nous demandent qu'une chose, c'est qu'on éradique totalement le loup.
Puis à l'autre côté, vous Yves, qui aimez la nature, qui connaissez aussi les éleveurs, vous dites que si ce loup est revenu, c'est parce qu'il se sentait quand même pas mal dans vos montagnes, qu'il avait tout ce qu'il fallait.
Exactement, je crois que ce n'est pas par hasard qu'il est revenu, c'est parce qu'il y a tout une écologie qui s'est faite, un biotope qui s'est recréé favorable au loup. La montagne n'est plus habitée comme elle l'était dans le temps. Vous avez vu que les alpages, quand même, il y a beaucoup moins d'hommes. Les troupeaux sont beaucoup plus grands, donc il y a beaucoup moins de bergers, beaucoup moins de présence humaine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un berger qui monte avec son troupeau, et c'est tout. La montagne redevient sauvage. Et c'est pour ça que le loup y retrouve sa place.
Yves, quand on parle du loup, on parle aussi du patou. Parce qu'on va se dire, bon, on peut avoir des loups à condition d'avoir des patous. C'est pas exactement un caniche. Et ça fait bien son boulot, mais il y a quand même quelques réserves qu'il faut émettre.
C'est un très gros chien, un chien qui peut faire 80 kg à l'âge adulte chez les mâles. Donc c'est un chien qui a une puissance de mâchoire, entre autres, particulière, qui fait qu'il peut être terriblement dangereux. C'était des chiens, d'ailleurs, qui avaient été élevés de par le passé, il y a bien longtemps, pour combattre.
Ouais.
Combattre aux côtés des hommes, pendant les guerres, ainsi de suite. Donc c'est un chien qui est habitué à ça et qui est fait pour ça. Il est vrai que c'est certainement le seul chien que les loups craignent. De l'associer au troupeau de moutons, c'est une bonne idée.
Cette bête-là est quand même capable d'attaquer un ours. C'est-à-dire que ça fait partie de ces chiens qui sont à peu près autonomes, il n'y en a pas tant que ça, et qui peuvent se dépatouiller tout seuls sans l'homme.
Ben oui, il est capable de vivre dans la nature sans l'homme, parce qu'il est capable de tuer n'importe quelle bête et s'attaquer à n'importe quelle bête.
Voilà.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne à faire la différence entre l'homme et les bêtes qui risquent d'être des agresseurs de troupeaux.
Oui.
Et ça, il faut absolument qu'on arrive à sélectionner peut-être, à l'intérieur des patous, des races moins virulentes, que l'on va faire naître avec les moutons, oui, mais qu'on va élever aussi avec les hommes.
Oui.
De façon à ce qu'ils comprennent que l'homme, celui qui est debout, eh bien, n'est pas le prédateur du troupeau de moutons, mais au contraire, le maître, le patron, celui qui garde les moutons comme lui.
On a eu des attaques, hein,
beaucoup trop de problèmes d'attaques de patous sur les promeneurs.
Et alors c'est toujours marrant parce que ce nom, on se dit patou, ça fait penser à pâteau, à chaleur, à doudou, et pas du tout. C'est vraiment l'opposé de ça, cette bête.
Oh, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un patou parce qu'il est tout blanc déjà,
bah oui.
Un peu nounours, un peu costaud, épais, tout rond. C'est un chien qui a une vigueur extraordinaire.
Ouais.
Qui a des pointes de vitesse fantastiques, qui est puissant, qui est un athlète, quoi. C'est un véritable athlète. Alors, il ne faut pas rêver, hein. c'est pas le nounours. Hein. C'est vrai que les endroits où sont les patous, la montagne est rasée de marmottes, il n'y en a plus. Hein.
Alors ce patou, donc élevé avec l'homme, manifestement ça fonctionne, mais s'il n'a pas été élevé au départ comme ça, on a des problèmes. Hein. Il y a eu des attaques assez nombreuses cet été donc dans les Alpes. Comment vous voyez, vous, peut-être à travers le monde, comment on se protège du loup, Nicolas Vanier ?
Je crois que ce qu'il faut dire tout de même par rapport à ce qu'on vient d'écouter, c'est qu'il faut bien considérer, en tout cas moi je le considère en tant que tel, c'est que ces bergers qui vivent dans nos montagnes en Haute-Maurienne-Vanoise ou dans les Alpes, hein, moi je pense que ça mérite qu'on y accorde autant d'importance qu'au loup. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une espèce en voie de disparition, au même titre que certaines espèces animales. Et on a trop tendance à opposer...
Vous allez vous faire plaisir aux éleveurs aussi des Pyrénées qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup
là-bas.
C'est
des gens extraordinaires qui aiment profondément leurs montagnes, qui connaissent la nature, qui sont importants pour la nature. Et je crois qu'effectivement, ce qui est évoqué tout à l'heure, ces idées qui sont développées d'élever des chiens avec des hommes, des moutons, voilà ce sur quoi il faut mettre des moyens, de façon à ce que enfin cet équilibre, qui est difficile, mais cet équilibre puisse être trouvé. En l'occurrence, il y a un certain nombre de pays dans le monde très proche des nôtres, en Italie ou autre, où il n'y a pas cette espèce de caricature, si je puis dire, ou ce problème où on a, comme je disais tout à l'heure, d'un côté les bergers qui veulent exterminer les loups jusqu'à dernier, et d'un autre côté les écologistes. Je pense qu'il faut qu'on trouve un juste milieu, parce qu'encore une fois, les loups méritent, mais les hommes aussi qui vivent dans ces montagnes méritent peut-être autant
tant que les loups.
Farid Benhamou, quelle est votre réaction par rapport donc à ce problème extrêmement sensible et totalement passionnel encore en France ?
Je rejoins ce qui a été dit. De toute manière, c'est vrai que là, les loups sont des révélateurs. Et aussi, par rapport aux patous, ce qui a été dit sur les patous, l'image parfois d'animal très agressif, parfois elle est un petit peu exagérée. Hein, et dans les Pyrénées, notamment, les souches qui ont été sélectionnées sont celles qui font bien la distinction. Alors, il y a deux choses, enfin, il y a une chose très importante qui a été dite, et notamment par Nicolas Vanier, c'est l'importance des hommes, et j'aimerais bien revenir dessus, c'est que bien souvent, en fait, les raisons pour lesquelles les loups posent autant de problèmes, c'est que les hommes ont disparu de ces montagnes, et qu'au contraire, on a besoin de ces personnes. Moi, j'ai accompagné un berger cet été dans le Queyras, et il soignait les brebis. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'asticots qu'il en a retirés. Tout ça pour dire que en enlevant ces postes de berger, eh bien, on a aussi des troupeaux qui sont en très mauvais état. Et donc, en remettant des bergers auprès des troupeaux, au lieu de les laisser divaguer, eh bien, on a des troupeaux en meilleur état. Et en plus, on a une cohabitation avec les loups qui est favorisée.
Alors parlons quand même de ce qu'on appelle les chiens errants, ou bien les chiens divagants. Vous faites une nuance de taille, Farid Benhamou. Qu'est-ce que ça représente ? Parce que le côté d'élite sale gueule, à la fois sur l'ours, où c'est incontestable que dans les Pyrénées, il y a eu de la casse, et aussi donc du loup, principalement dans les Alpes, parce qu'on a un peu de loup qui a traversé merveilleusement l'autoroute, les lignes de TGV, qui est arrivé du côté de l'Ariège, me semble-t-il. Mais les chiens errants, les chiens divagants, comment c'est comptabiliser ces affaires-là, quels sont les dégâts que ça représente ?
En fait, c'est très difficile. C'est-à-dire que pour les ours et les loups, on a des statistiques, puisque c'est indemnisé. Hein. Les ours, c'est 150 brebis par an, et les loups, bon an, mal an, c'est 3500 brebis. Les chiens divagants, oui, à distinguer des chiens errants, parce que les chiens errants, ce sont des loups réensauvagés, alors que les chiens divagants, ça peut être des chiens de chasse, ça peut être des chiens de promeneurs, ça peut être des chiens de ferme. Eux commettent des dégâts. Et là, on est plusieurs dizaines de milliers par an. Et alors, la différence avec les prédateurs, et notamment le loup, c'est qu'il y a moins cette charge symbolique, médiatique, culturelle, qui fait que là, ça passe avec perte et profit. Mais pour certains départements, y compris des départements où il y a des prédateurs, c'est plusieurs milliers de brebis qui y passent, et des troupeaux qui sont perturbés, avec parfois des troupeaux qui sont juste apeurés, et qui vont tomber dans des ravins. Il suffit ensuite que les chiens mordillent les brebis mortes, et puis ensuite, eh bien, ça passe pour le compte du loup, et donc, ça va faire les unes de journaux, et notamment de la presse quotidienne régionale. Alors que quand ce sont, par exemple, des bergers allemands échappés, ça va faire un petit entrefilet.
Nicolas. J'avais une question à vous poser. Ce que j'ai constaté, moi, partout dans le Grand Nord, c'est que les loups attaquaient pratiquement systématiquement tous les chiens. Errants, ouais. Les chiens dans les villages, même attachés auprès des maisons. Donc, est-ce qu'en France, on a constaté des attaques régulières de loups sur justement ces chiens errants, divagants ? Ce qui pourrait, en quelque sorte, et là, je prolonge ma question, ce qui pourrait peut-être donner aux loups une sorte de rôle médicamenteux, si je puis dire.
Alors, en France, on a eu quelques cas de chiens qui ont été mangés par des loups, des chiens, et là, des chiens divagants, c'est-à-dire des chiens qui appartenaient à des gens qui n'étaient pas très contents. Mais c'est plutôt en Italie, où là, il y a véritablement des chiens errants, et où des chercheurs comme Boitani ont montré que ces chiens errants étaient parmi les proies principales, souvent, des loups. Et en effet, les loups en Italie ont tendance à réguler ces chiens errants.
Oui, parce qu'ils n'acceptent pas la présence de ces chiens sur leur territoire, parce que les loups sont extrêmement territoriaux. Moi, c'est pour cela que j'ai vu tant de loups dans ma vie, c'est parce que j'ai pénétré dans leur territoire avec des chiens de traîneau et qu'ils n'acceptaient pas cette pénétration, si je puis dire, et donc ils venaient à notre rencontre. Donc je suppose qu'en France, lorsque des chiens ou un groupe de chiens, ça doit être encore pire, pénètrent dans leur territoire, il doit y avoir presque attaque systématique.
Systématique, oui.
Est-ce que le loup tue uniquement pour se nourrir ou bien est-ce qu'il peut le tuer, il peut tuer aussi par plaisir pour jouer ?
Il peut tuer par plaisir pour jouer. Ça, je le dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions plusieurs. C'était en Alaska, au bord d'un grand marais où il y avait des jeunes oies malhabiles qui n'arrivaient pas encore à voler. Et il y avait là des jeunes louveteaux qui avaient 4 ou 5 mois et qui en ont abattu à peu près 50 ou 60. Je ne suis même pas sûr qu'ils en aient dévoré un. Ils le faisaient vraiment pour le plaisir, pour apprendre à chasser. Maintenant, je pense que cela est dû au fait que c'était des jeunes louveteaux. Je pense que des loups adultes ne vont pas dépenser comme ça inutilement de l'énergie pour aller attaquer des caribous qu'ils ne dévoreraient pas. Ça, c'est quelque chose, en l'occurrence, que moi, je n'ai jamais vu, jamais constaté. Je pense vraiment que c'est vraiment ce que je viens de raconter dû aux louveteaux.
Farid Benhamou, un mot assez rapide, s'il vous plaît, sur la PAC. Lorsque l'on est éleveur, on est dans des situations qui sont parfaitement précaires, qui ne sont pas simples. Ces gens-là ne gagnent pas forcément bien leur vie, loin de là. Et on ne peut pas dire que la PAC les aide beaucoup. Hein. C'est 90% pour les céréaliers. Je ne vais pas dire que c'est une chasse gardée, parce que ce n'est pas exactement le mot, mais voilà. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cela, si on pouvait réorienter un petit peu l'affaire là?
Ah bah oui, on peut la réorienter considérablement. Disons qu'en fait, dès les années 80, le secteur ovin a été un petit peu le cobaye de la politique agricole commune, inspiré d'un pseudo-libéralisme qui a visé à enlever en quelque sorte toutes les protections et à ouvrir le secteur, et notamment l'ouvrir à la concurrence britannique tout d'abord et néo-zélandaise. Ce qui fait qu'on a des agneaux qui arrivent beaucoup moins chers. Et en plus, un marché qui a été aussi victime de la grande distribution et qui a diminué les coûts de revenus de ces éleveurs. Et cette politique agricole commune a, par son système de subvention, systématiquement favorisé les plus gros éleveurs. Ce qui a considérablement pénalisé les petits. Et ce qu'il faudrait faire, ce serait plutôt de réorienter vers des mesures agri-environnementales et aider l'installation d'éleveurs d'unités plus petites.
Nicolas Vanier, un mot quand même sur la communication des loups, parce que vous les avez croisés. Je ne vais pas dire que vous parlez le loup tout à fait couramment, mais les hurlements, évidemment, ont différentes fonctions.
Oui, d'ailleurs, on appelle ça souvent des chants, et c'est vrai que ça ressemble véritablement à des chants. C'est quelque chose de très mélodieux, de très joli. Nous avons d'ailleurs ouvert le film dans le noir sur les hurlements de ces loups. On arrive très rapidement, même si on n'a pas du tout l'oreille musicale, ce qui est mon cas, à identifier d'ailleurs dans un groupe les différents par la tonalité, les individus. C'est quelque chose de très mélodieux, très beau. Ça fait partie, moi, de mes grands souvenirs. Je me souviens notamment lors du repérage du film Le Dernier Trappeur, avec mon équipe, tout d'un coup, on s'est arrêté pour regarder des aurores boréales dérouler comme ça, leurs écharpes de lumière dans le ciel. Et il y a une meute de loups à presque 200 mètres de nous qui s'est mise à hurler. Et là, j'ai regardé non plus les aurores boréales, mais les yeux de mes camarades qui n'avaient jamais vu ni d'aurores boréales ni entendu les loups. Et ces yeux-là, c'était la plus belle récompense qu'on puisse imaginer pour un amoureux du Grand Nord, parce qu'on veut faire partager ce genre de choses.
On va se quitter encore avec un extrait de ce film, parce que là, c'est intéressant. Vous allez voir, c'est un peu la conclusion du film.
Grâce à cette histoire et à mon fils Sergueï, j'ai compris que les loups n'étaient pas nos ennemis. Sauf quand ils s'attaquent à nos reines. Maintenant, je dois faire comprendre à Sergueï que les loups doivent rester des loups et qu'ils ne sont pas nos amis. Il existe des chiens pour ça. Et nous, le peuple Even, nous devons rester des nomades qui défendront éternellement nos reines. Cet équilibre s'appelle l'harmonie, celle dans laquelle nous voulons continuer à vivre, dans nos belles montagnes, avec des reines et avec des loups.
Voilà, c'est la fin. Non, ça n'empêche pas de voir le début, hein, je vous rassure, donc Nicolas Vanier, avec quand même aussi l'arrivée des Occidentaux qui ouvrent des routes. Et là, ces événements comprennent que c'est peut-être beaucoup plus dangereux pour eux, pour leur règne, que le loup.
Oui, bah d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle ils ont accepté l'aventure de ce film, c'est que l'on évoque autour et avec ce film ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur ce petit peuple et sur l'Arctique, celles liées bien évidemment au réchauffement climatique et puis ces forêts dont l'exploitation malheureusement est devenue rentable devant la hausse spectaculaire de la demande, notamment de nos pays, pour la pâte à papier. Donc je pense qu'il est très important aujourd'hui, à la veille notamment des vacances de Noël, de rappeler à quelques jours de Copenhague que le roi du monde, celui qui détient le pouvoir pour changer tout ça, n'a qu'un nom, c'est le consommateur. Et Dieu sait si aujourd'hui dans les magasins, avec tous ces produits suremballés, ces produits énergivores, le consommateur devrait punir justement tout cela et encourager les produits de plus en plus nombreux qui respectent les évennes, les loups, les ours polaires et l'environnement.
On va dire les deux personnes qui sont au fond de nous, à la fois le consommateur et aussi le citoyen quand même.
Bien sûr.
Merci beaucoup Nicolas Vanier. Alors beaucoup de sorties. Une BD, Loup, aux éditions édition 12 bis. Vous avez lu votre ouvrage qui est sorti en pocket jeunesse. Ça, c'est important parce que vraiment, c'est pas cher en pocket jeunesse pour les jeunes et les moins jeunes. Le très beau livre que j'ai entre les mains chez Ixo, le chêne, qui raconte à la fois le film et qui aussi nous apporte beaucoup d'informations sur les loups. Ushuaïa TV va passer le making-of de loups, ce sera le 27 décembre. Et puis quand même notre partenaire habituel, Terre Sauvage, qui consacre ce numéro de décembre-janvier au loup, donc le numéro de Terre Sauvage. Je peux rajouter le roman du loup qui vient de sortir de Claude-Marie Vadreau aux éditions du Rocher. Le roman du loup, Claude-Marie Vadreau. Alors vous avez évidemment tous ces sites, tous ces éléments sur les sites nourris par Anne Gouzon, notre cyber-documentaliste, comme on dit en français, sur le site de CO de Mon Amour. Un grand merci à Elisabeth Collet, à Vincent Godard à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pessugia qui réalisait l'émission.